Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le CBD, c'est une des substances qui est OK avec l'Agence internationale d'antidopage. Parce que nous, on a des tests antidopage tout le temps. Et d'ailleurs, c'est horrible d'essayer de pisser après une compétition. Genre où t'as perdu grave d'eau et il y a un mec qui te regarde la bite comme ça, à ça de toi. Franchement, c'est... Genre au championnat d'Europe, ça m'a pris une heure à pisser, quoi. C'est incroyable. Mais bon, bref, on a le droit de prendre du CBD pour les compétitions. Pas de THC, par contre. Mais je pense que ça nous aiderait pas, en vrai.
Qu'il est pudique, Mathias Dandois. Même pour un athlète pro, une superstar du BMX, 9 fois champion du monde, bah c'est pas facile de faire pipi sur commande, et encore moins sous l'œil d'un juge.
Mais est-ce qu'on en est si sûr que ça, que le THC ne peut pas aider les sportifs? Et dans ce cas-là, pourquoi est-il interdit par l'agence antidopage, y compris dans les pays où le cannabis est légal?
Bon, c'est clair qu'intuitivement, on se dit que la beuh, c'est pas vraiment un produit dopant. Et pourtant, du stoner sur canapé au coureur multimédaillé, il n'y a qu'un pas de course.
Weed et sport à fond la fume, c'est l'épisode 28 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel?
Des bananes.
Vous en voulez?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau!
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Évidemment, vous allez nous dire que le pétard, pour vous, c'est plutôt synonyme de faux départ, que cela n'augmente pas vraiment vos performances sportives, à part peut-être au lit ou sur PES.
Mais souvenez-vous, l'un de nos tout premiers invités dans Banana Kush nous avait déjà mis la puce à l'oreille.
J'ai la chance d'avoir une constitution qui est spéciale. Quand je m'entraînais pour la boxe et que... Après 2 heures d'entraînement, je disais à mon coach que j'avais fumé 3 joints avant et je lui dis est-ce qu'il faut vraiment que je fasse le travail d'arrêter? Il me dit non, si ça te décontracte, fais ce qui est bon pour toi.
Mathieu Kassovitz Tyson, le poumon d'or du ring, cet amateur de boxe et de fumette, était l'invité du 2e épisode de Banana Kush. Et quelques recherches permettent de se rendre compte qu'il est loin d'être un cas isolé.
On se souvient des suspensions pour test positif au THC de nos champions du monde, Bernard Lama et Fabien Barthès.
Michael Phelps, le plus grand médaillé de l'histoire des JO, s'est montré comme un poisson dans l'eau quand il s'agissait de se couler un bang.
Nick Diaz, le ninja de l'octogone, n'a jamais caché son amour du pilon en même temps que celui de la baston.
Cliff Robinson, l'Uncle Cliff de la NBA, après avoir été suspendu 3 fois, a même fini par créer sa propre marque de weed.
Bref, Casso, t'es pas solo. Il se passe bien quelque chose entre l'effort physique et le hack-kick.
Alors, on a voulu en savoir plus sur les liens entre sport et cannabis. On a passé un coup de fil au plus grand des spécialistes français du dopage. On a discuté avec des sportifs de haut niveau, des vrais, des pros. Et on vous a demandé à vous de nous raconter vos expériences de sportifs fumeurs du dimanche.
Alors j'étais au lycée, c'était en première peut-être pour l'évaluation du bac en escalade et avec les collègues on s'était envoyé un bon gros pilon juste avant, du coup je suis arrivé détendu. Alors d'habitude en escalade j'étais pas super doué quoi en fait, et là je suis monté d'un seul coup tout le mur, chaque prise je faisais corps avec le mur quoi en fait, et j'ai grimpé super vite tout en haut, je suis redescendu. Et le prof, il m'a dit « Ouais, c'est super, tu grimpes super bien, est-ce que tu veux pas adhérer au club local d'escalade ?» Du coup, moi, je suis pas vraiment un sportif, en fait.
Mâchez les racines de valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice.
Visiblement, un pétard et ça repart. Le cannabis pourrait même faire naître des vocations de sportifs qui s'ignorent.
Mais ça veut dire quoi exactement que le cannabis est un produit dopant? Comment l'herbe peut-elle améliorer les performances? Et pourquoi est-elle interdite par l'Agence mondiale antidopage?
Pour y voir plus clair, on a passé un coup de fil au docteur Jean-Pierre de Mondenard. Médecin du sport, intervenu sur les plus grandes compétitions, notamment sur le Tour de France, il est l'auteur de dizaines d'ouvrages sur le dopage. C'est une encyclopédie vivante de la triche pharmaceutique. Alors, on lui a demandé s'il arrivait souvent que les sportifs de haut niveau soient contrôlés positivement au cannabis.
I'm a banana, I'm a banana.
Tiens, Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
Alors avant, oui. Jusqu'en 91, le cannabis n'était pas prohibé. En tout cas, la France le prohibe à partir de 91. Mais problème, il n'y a pas de seuil, donc il n'y a personne qui est épinglé. Et à partir de 99, le CIO, le Comité International Olympique, lui, décide de l'inclure. Et à ce moment-là, il y a un seuil à 15 nanogrammes par millilitre. Et effectivement, de nombreux sportifs vont se faire épingler parce que la caractéristique de ce produit, c'est qu'il reste dans les urines, même après avoir fumé seulement un joint pendant plusieurs jours.
Ce n'était pas une question de dosage, c'était une question de dopage.
Donc, il y a un nombre important de gens qui sont contrôlés positifs. Et même dans les années 2000, deux tiers des contrôles positifs, des résultats internationaux antidopage, montrent que c'est du cannabis. Donc à partir de là, ça fait mauvais effet sur l'image du sport de compétition et on décide d'augmenter le seuil en le multipliant par 15. C'est-à-dire ça passe à 150 nanogrammes par millilitre et à partir de là, il y a plus grand monde qui se fait épingler. Voilà comment on évacue un problème en augmentant le seuil.
C'est-à-dire que, en fait, avec ce seuil relevé, il y a un usage qui reste massif, mais qui est pas, qui est sous les radars.
Complètement.
C'est un produit dopant, le cannabis ?
Bien sûr. Comme toutes les substances qui agissent sur le système nerveux central, sont ipso facto des dopants. Parce qu'ils modifient votre comportement face à la compétition. Vous allez devenir plus euphorique, désinhibé. Effectivement, il est utilisé aussi en mode festif, mais c'est un vrai produit dopant. D'ailleurs, les toreros en avaient bien conscience, puisque dans un livre que j'ai cité X fois sur la tauromachie qui est paru en 1960, l'auteur raconte que le torero, avant de pénétrer dans la plaza, l'arène, fume un joint et il met en bas de page « hashish égale doping ». Donc, dès 1960, ils savent bien que le cannabis est un dopant. Ils prennent du cannabis pour affronter le taureau, pour pas avoir peur face au taureau.
Je vais sacrifier 100 taureaux pour honorer ton triomphe.
Donc, le cannabis est un vrai produit dopant. Il y a des tas de témoignages de sportifs qui vous diront qu'ils ont remporté des compétitions grâce au cannabis. Des boxeurs vous diront que sous cannabis, ils étaient nettement meilleurs, etc.
Est-ce qu'il y a des sports dans lesquels on a plus recours au cannabis que d'autres ?
Alors, il y a effectivement, il y a eu des séries dans les épidémies de 97 où de nombreux footballeurs ont été pris. On a constaté qu'effectivement, les plus exposés à prendre du cannabis par rapport à un enjeu, une compétition, sont les gardiens de but.
Ah oui, on a eu Bernard Labat, Fabien Barthès.
Et c'est les gardiens de but, il y a même la capitaine de l'équipe d'Italie féminine aussi. Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans votre cage, vous avez derrière vous des gens qui vous crient dessus, qui vous lancent plein de trucs, qui vous êtes traité tous les noms. Et le cannabis permet d'affronter ce genre de combat par rapport à ceux qui vous aiment pas.
Bah donc c'est toujours un peu dans le combat, c'est dans l'affrontement pas mal, parce que vous parlez de la tauromachie, vous parlez de la boxe.
Bien sûr, mais c'est ça le dopage.
Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur les sports de combat, dans le MMA, je crois que l'UFC, donc la fédération américaine, elle a annoncé en début d'année qu'elle ne sanctionnerait plus les combattants contrôlés positivement au cannabis.
De toute façon, dans le sport de compétition, tout ce qui est négatif par rapport à l'image, on minimise. C'est une mauvaise image de se faire épingler pour un contrat antidopage parce que ça vous poursuit toute votre carrière. Donc, effectivement, ils font plus attention. Aujourd'hui, en plus d'avoir relevé le seuil, depuis 2021, il y a une réglementation nouvelle. C'est-à-dire, c'est plus dans les produits strictement dopants, c'est dans une catégorie de substances d'abus. Comment dire, pour passer une bonne soirée, récréative. Mais alors, je vous rappelle que les drogues telles que la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, ne sont interdits qu'en compétition et pas en entraînement. Voilà, si vous arrivez à démontrer que vous l'avez pris en tant que drogue récréative, vous prenez que 3 mois. Alors qu'en temps normal, c'est 4 ans.
Et pour revenir au cannabis, il y a je crois que récemment, le CBD, qui est la substance relaxante du cannabis sans effet psychotrope, qui a été retiré des produits interdits, contrairement au THC, donc la substance psychotrope qui reste interdite. J'ai l'impression que le CBD fait sa grande entrée, qu'il y a maintenant des sponsors, des marques de CBD qui sponsorisent des sportifs de haut niveau. Le CBD, du coup, qui a des propriétés pour la récupération, pour, contre le stress, c'est pas un produit dopant.
J'ai pas l'expérience du cannabidiol, mais effectivement, ça agit sur la douleur, ça agit sur le stress, ça agit sur l'anxiété. Donc, ça, effectivement, améliore quelque part le comportement du sportif sans avoir une action sur le système nerveux central. Le cannabidiol, voilà, la différence qu'il a avec le cannabis, c'est qu'il agit pas sur le système nerveux central, mais ça a d'autres effets qui peuvent être intéressants.
Merci beaucoup, Jean-Pierre de Mondenard.
J'espère que vous avez appris des choses.
Banana Cash.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ?
Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
Banana, 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 nanana,
à en croire le doc, il n'y a donc plus aucun doute. Le cannabis, le THC en tout cas, est un produit dopant, courant et sous-estimé.
Et d'ailleurs, l'herbe a même fait son entrée dans les expressions sportives. Dans certains sports extrêmes, comme l'ultra trail, le cannabis permet de tenir la course jusqu'au bout sans vomir. On parle alors de running on weed. Et d'ailleurs Camille, après avoir couru longtemps, après un gros effort physique, on est un peu foncedé, non ?
Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, Christophe. Justement, l'INSERM nous apprend que quand on fait du sport, on stimule les mêmes récepteurs du cerveau que quand on bédave. C'est le système endocannabinoïde. Tout comme la dopamine, il génère une désinhibition et un accroissement de la motivation. C'est ce qu'on appelle couramment l'ivresse du coureur.
Et donc, fumette et course à pied, même combat finalement. Enfin, sauf qu'il y a une activité un peu plus fatigante que l'autre.
Effectivement. En continuant notre enquête sur les rapports entre sport et consommation de cannabis, on est tombé sur les travaux d'une psychologue, Marjorie Maugendre. Elle s'est penchée sur la consommation de cannabis parmi un groupe d'adolescents pratiquant le sport à haut niveau. Et elle a essayé de comprendre les raisons et les effets de cette consommation.
On avait quand même vu qu'un quart avait déjà quand même consommé du cannabis, dont à peu près 20% qui consommaient régulièrement. Alors régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. C'est sûr qu'il y avait aussi ce phénomène de l'adolescence qui rentrait en compte parce que l'échantillon, ils avaient une quinzaine d'années et on avait remarqué que les deux tiers consommaient pour découvrir bien forcément les effets du cannabis. Hein, ça, c'est forcément à 15 ans, on a aussi on a envie de découvrir.
Ne vous inquiétez pas, Larmina. S'il y a quelque chose à découvrir, je le découvrirai.
Mais il y en avait... une quinzaine de pourcents qui se sentirent plus forts intellectuellement et plus dans la compétition. Ouais. Ils se sentent plus forts quand ils consomment du cannabis. Alors peut-être des effets aussi, je me rappelle parce qu'ils disaient de concentration. Hein, ils avaient ce sentiment que quand ils fumaient du cannabis, ils étaient beaucoup plus concentrés. Et donc du coup, ces personnes-là avaient tendance à avoir un manque de contrôle de la situation, de l'environnement sportif, hein, au niveau des résultats, des choses comme ça. Et le cannabis leur permettait, en fait, si jamais il y avait un échec, de se dire, c'est pas mes manques de compétences, mais c'est la consommation de cannabis qui me permet d'expliquer mon échec, quoi, en soi. De le justifier, voilà. Et donc de valoriser leur estime de soi, quoi.
Avant le sport, ça peut être super sympa aussi. Faire un petit micro-dosage en vapeau, ça permet d'avoir juste l'énergie, juste la bonne vibe, ce qu'il faut pour y aller. Voilà, juste de se mettre bien. Donc ça a pu être de la muscu, ça a pu être de la plongée, de l'apnée. Je me pète jamais la tête avant un entraînement. Moi, c'est plus le côté stimulant que je recherche et que j'apprécie, notamment quand je fais du sport.
Bonjour, donc je suis cycliste amateur, je fais un peu de compétition en club de vélo de route. Donc je fais environ 300 km semaine. Je consomme le cannabis uniquement sous forme alimentaire. Je ne cherche pas spécialement le high, quand j'en consomme, je cherche surtout à avoir une relaxation musculaire et même psychologique, parce que ça me fait même plutôt du bien à la tête. J'essaye de ne pas consommer avant les entraînements, déjà pour avoir la tête bien focus sur le guidon et la route. J'essaye de ne pas consommer une semaine ou deux avant les compétitions. Du coup, je pense pas que si un jour je me fais contrôler, que ce soit positif.
C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, ça.
Deux salles, deux ambiances, on le répétera jamais assez dans Banana Kush, mais les usages du cannabis et ses effets sont propres à chacun et à chacune, sportif inclus. Et puis, comme nous l'a très bien rappelé la psychologue Marjorie Maugendre, pour les sportifs aussi, il y a souvent un dark side du pétard.
On parle de THC depuis le début de cet épisode, mais souvenez-vous de Mathias Dandois, notre champion de BMX qui n'aime pas trop montrer sa... pardonnez-moi l'expression, il nous précisait que si le THC était interdit par l'Agence mondiale antidopage, le CBD, lui, ne posait aucun souci. L'agence l'a retiré de la liste des produits prohibés fin 2017.
Et depuis quelques années, l'industrie du CBD place ses pions dans certains sports. De plus en plus d'athlètes sont sponsorisés et utilisent leurs produits. Parmi eux, Eva Dourte, une Française, combattante de MMA. Vous savez, le MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts. C'est un mélange de tous les arts martiaux et sports de combat qui se jouent dans un octogone, une sorte de cage et où tous les coups, ou presque, sont permis, étranglement, clé de bras.
Et oui, Eva Dourte est ce qu'on pourrait appeler badass. 9 combats pro, une ceinture européenne et une sponso par une marque de CBD qui la fournissait en huile et en crème dans le cadre de sa pratique. Alors on l'a appelée et on lui a demandé « Mais à quoi ça te sert exactement, le CBD ?»
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre ?
Alors en fait, ça permet vraiment de récupérer, sachant que le MMA, vu qu'il y a de la boxe, il y a de la lutte, il y a du sol, ça demande énormément d'heures d'entraînement pour un peu dominer un peu tous les domaines. Et donc le corps, il ramasse quand même, on va pas se le cacher, et il faut récupérer. Pour récupérer, le CBD m'a beaucoup apporté pour relaxer les muscles, régénérer les tissus musculaires, sachant que quand on enchaîne deux entraînements dans la journée, souvent, le deuxième, il est assez tard dans la journée. Et le soir, le corps, il est encore en situation de stress, et notamment les muscles. Donc, le but, c'est vraiment de les détendre et d'apaiser tout ça pour que le lendemain, on puisse reprendre assez rapidement les entraînements et en pleine forme. J'utilisais juste après l'entraînement. Alors, soit je prenais des gélules, soit en huile. Par contre, je prenais avant le combat et juste après le combat. Ça atténuait et ça permettait de récupérer sur les coups, ouais. J'ai arrêté parce que, disons que je prenais 3 gouttes de 15 mg après les entraînements. Et donc, je sentais les effets. Et au bout de 2 semaines, il m'en fallait un petit peu plus. Après, il m'en fallait un petit peu plus. C'est pas que j'étais dépendante, loin de là. Mais c'était mon corps. Il en avait besoin toujours plus. À la fin, il me fallait vraiment des très grosses doses. Et du coup, j'avais pas envie de tomber dans ce truc en avoir besoin énormément. Non, aujourd'hui, je fais 100. J'essaie de m'écouter un peu plus et après voilà, je fais des trucs un peu basiques, je mets du baume du tigre, des choses comme ça sur le corps. Mais j'ai arrêté CBD, après il y a la crème, voilà, que je continue, mais oui, je continue sans.
Attention à l'accoutumance, hein, donc plus on en prend, plus il en faut.
Mais du coup Camille, il y a quelques années, avant que le CBD ne devienne un vrai produit, une industrie, ils faisaient comment les combattants de MMA pour combattre la douleur et récupérer plus vite?
On n'a qu'à demander à Eva Dourte.
Ils utilisaient du cannabis tout simplement, mais bien sûr après il y avait tous les effets du THC à côté. Oui, il y en a beaucoup qui fument. Après, je pense, je fume pas, mais je pense que ils se permettent de fumer par exemple un joint, peut-être un tous les soirs. Ça n'a pas forcément abîmé beaucoup les poumons. Après, je sais qu'il y en a qui prennent en tisane aussi. Sachant que dans le MMA, les tests antidopage, il y en a très 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 peu. Là, le MMA vient d'être légalisé en France. D'ailleurs, ça a fait la polémique parce que la dernière organisation qu'il y a eu, il y a eu 90% des étrangers qui ont été testés positifs au dopage.
Et d'ailleurs, début 2021, l'UFC, la Fédération américaine de MMA, a annoncé au calme qu'elle arrêterait de sanctionner les combattants testés positivement au THC.
Eh ben, ça va se faire des gros aquariums dans l'octogone.
Probablement pas non plus.
Nick, la radio.
Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as la crème.
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
L'enquête continue avec un autre athlète qui fait du BMX. Christophe, je suis un petit peu jalouse, mais tu as parlé à un mec qui est 9 fois champion du monde.
Et oui, en plus, Mathias Dandois, il vient juste de remporter son 9e titre à Montpellier. Mathias Dandois, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Bien sûr. J'ai 32 ans et je rêvais d'être footballeur professionnel, mais j'ai fini sur un BMX. et je suis 9 fois champion du monde de BMX Flatland. C'est une des disciplines du freestyle, donc de tricks, qui consiste à faire des figures donc sur un sol plat.
La vache, le ride.
On n'a pas besoin de rampe ou d'artifice ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme du break sur un vélo, comme de la danse sur un vélo. Je suis allé dans plus de 87 pays, je crois, dans ma carrière pour faire du BMX un peu partout. Donc j'ai trop de chance en vrai, c'est cool, la vie est belle.
Oui, ça va, ça a l'air cool comme vie. Tu es sponsor aujourd'hui par une marque de CBD?
Ouais, exactement, la marque s'appelle The Hemp Concept. C'est une super collaboration. Le CBD, c'est une des substances qui est OK avec l'agence internationale d'antidopage. Pas de THC par contre. Mais je pense que ça nous aiderait pas en vrai.
Tu penses? Parce que, alors pour le coup, dans l'épisode, on s'interroge aussi sur l'usage du THC dans le sport de haut niveau. Ouais. Il y a des sports où ça se fait beaucoup de prendre du THC.
Comment ça peut améliorer tes performances de fumer du THC? Genre, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai un peu fumé quand j'étais plus jeune, mais moi, ça ne me réussit pas du tout. Hein. Oh, je serais incapable de faire du BMX avec du THC, c'est sûr.
Le Tahitien est le nouveau champion du monde.
Je suis fatigué, j'ai pas très envie d'y aller.
Le THC, c'est pour moi complètement incompatible. Après... dans les sports, dans les scènes, le skate, le BMX, ça fait partie de la culture aussi un peu de fumer, même si c'est pas tous les pros ne le font pas.
Ça, c'est une question justement que j'allais te poser, c'est que ça fait partie effectivement, que ce soit le BMX ou le skate, de la culture qui va autour, au-delà de l'aspect purement sportif. Comment ça se passe quand tu passes de une culture urbaine à un sport de haut niveau en fait?
C'est un sport qui est né dans la rue, c'est un sport qui est né en Californie à la fin des années 70, avec des kids un peu rebelles qui voulaient faire un peu autre chose que des sports qui leur étaient proposés. Et donc, à la base, c'est un peu une contre-culture, le BMX, le skate, tout ça. Et donc, avec des codes comme il peut y avoir dans le hip-hop ou fumer de la weed, ça, c'était cool. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette image, elle nous colle un peu à la peau. Même quand le BMX, le skate, a été annoncé au JO à Tokyo en 2020, il y a plein de gars de fédération qui se sont un peu offusqués. Ils se sont dit « Ouais, tous ces fumeurs de joint qui vont venir au JO, c'est pas possible, machin. » Alors que c'est juste une partie de la scène qui consomme de la weed, tu vois. Genre, il y a tous les gars qui font de la compète un peu. C'est vraiment des sportifs de haut niveau, de ouf, tu vois, au même titre qu'un footballeur ou qu'un tennisman. Il y a des entraînements physiques, il y a des coachs... On fait partie de la Fédération française de cyclisme, donc on représente l'équipe de France, donc c'est des trucs hyper institutionnalisés, vachement organisés, et je trouve que c'est pour le mieux, tu vois, parce que les gars qui veulent juste en faire dans la rue, ils peuvent, mais ça donne l'opportunité à des gamins de le voir à la télé, dans des grandes compétitions, et je te dis, ça va être au JO aujourd'hui, donc en fait, il y a vraiment cette double culture aujourd'hui dans le BMX, tu vois, le côté très athlète... JO, machin, et le côté un peu plus lifestyle dans la rue. Et moi, je suis vraiment à la frontière entre ces deux trucs. Mais pour en revenir au cannabis, au CBD, tous les athlètes qui font justement les JO et tout, ils ont tous des sponsors de CBD, enfin, 80%. Et genre, c'est hyper commun dans le BMX, dans le skate. Maintenant, c'est un truc de ouf parce que ça marche hyper bien dans le sport. C'est un truc de ouf.
Qu'est-ce qu'il te faut de plus, là, Daniel?
Un autre sponsor!
Concrètement, pourquoi ça marche bien dans ton sport?
Ça marche hyper bien avec la douleur. Tu sais, on prend toujours des petits impacts dans les tibias ou genre tu te tords un peu les chevilles ou tu te fais mal au cou, des choses comme ça. Et les baumes au CBD, genre c'est ouf la différence que ça fait par rapport à un... Tu vois, j'ai mis de l'arnica sur ma peau toute ma vie et ça n'a jamais vraiment fait de miracle. Là, pour le coup, le baume, c'est quand même ouf de se dire que tu as un produit aujourd'hui qui marche aussi bien que ça. Après, pour le dodo, moi, ça marche hyper bien aussi. Là, je voyage un peu moins en ce moment avec le Covid, mais avant, j'étais tout le temps vraiment à prendre l'avion, aller dans des endroits différents du monde. Donc, t'as le fameux décalage horaire, tu vois, qui te casse un peu les pattes. Et les gouttes de CBD avant de dormir, genre les 6 et les 5-10%, moi, ça marche pas très bien. Mais dès que tu commences à prendre les 25-30%, là, ça te met une bonne claquette et tu dors bien. Je vois vraiment, moi, l'effet que ça a. Après, c'est personnel et il y a... certaines personnes sur qui il y a moins d'effet, tu vois. Genre, ma meuf, je lui ai fait prendre des gouttes de 30% de CBD, genre, ça lui fait rien, les yeux écarquillés.
Du coup, toi, tu l'utilises essentiellement en baume et en gouttes pour dormir,
ouais,
c'est ça?
Ouais, baume chauffant, juste avant d'aller rider, après, t'as baume un peu plus refroidissant pour après la session, et puis il y a ce nouveau baume-là, vraiment concentré en CBD que j'utilise même pendant la session, tu vois, quand tu te fais mal.
Ça fait combien de temps que tu as commencé à utiliser du CBD dans le cadre de ta pratique sportive?
Je crois la première fois, c'était il y a 3 ans. J'étais là genre, ouais, c'est quoi ce truc? Et ça a explosé depuis en vraiment 3 ans. C'est un truc de ouf. Hein. Et je crois que même maintenant, ils vont faire des pour le renforcement musculaire et ils vont même faire des protéines, je crois, au CBD là. Donc tu vois, c'est vraiment devenu un produit fait pour les athlètes.
Mais du coup, tu me disais que ça a vraiment hyper bien pris dans le milieu du skate, du BMX, que c'était vraiment que les marques sont déjà extrêmement présentes. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi au côté culturel, en fait, le fait que bah, y avait déjà une certaine acceptation pour le cannabis dans ces cultures-là et que du coup, le CBD est arrivé assez naturellement dans ces sports?
Absolument. Tu vois, tout le marketing autour du CBD, ça reste aussi autour de la plante, souvent, de la feuille de cannabis. Et je pense que ça a bien pris dans ces cultures parce que il y avait déjà un foyer, tu vois, un foyer culturel où les gens ils apparentaient ça un peu au sport. Mais aujourd'hui, justement, le CBD, je trouve que ça a pris un peu le contre-pied de ça. Les marques de CBD, elles sponsorisent des athlètes qui sont justement très 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 propres sur eux, un peu. C'est une image clean aujourd'hui et vraiment bien nette et c'est cool. Du coup.
Eh ben, très bien. C'est quoi les prochaines étapes pour toi là? Il y a des compétitions, du repos
Je me fume un gros bédo. Non, non, non. J'ai. J'ai un événement à Osgore ce week-end. Ça s'appelle The Wall. Ça, c'est cool. Les événements reprennent là. Ça va être chouette cet été et la grosse compète qui arrive, c'est le FIS à Montpellier le 3 septembre. Donc tu vois, ça va vite arriver finalement et je vais devoir me repréparer pour ça, pour la gagner, tu vois. Ce serait cool.
Eh ben, merci beaucoup Mathias Zandois.
Merci à toi, c'était cool. On a bien rigolé en tout cas.
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
C'est notre petit secret.
Banana split for my baby, a glass of plain water for me.
Parmi les sportifs sponsorisés par des marques de CBD, il y a donc des combattantes de MMA, des riders BMX de haut niveau, mais on a aussi trouvé un surfeur, enfin pour être précise, un champion de bodyboard. Vous savez, c'est cette planche sur laquelle on reste allongé et qu'on utilise pour faire des figures aériennes sur les vagues.
Champion du monde junior, champion d'Europe pro, 11e mondial, Maxime Castillo a été approché il y a 6 mois par deux marques de CBD qui lui ont proposé leurs produits. L'industrie du CBD qui est de plus en plus présente dans le milieu du surf.
J'ai deux marques qui m'aident un petit peu. J'ai Lifea et Botanique à Arcachon. C'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu entre guillemets à la mode dans le milieu du sport. Pas que dans le surf, hein, mais dans tous les sports en fait. Et du coup, on m'a présenté quelques produits. Donc, ça a été cool de pouvoir tester ces produits-là. Bon, concrètement, moi, j'en prends pas toute la journée non plus. Hein, c'est quelques gouttes le soir qui me permettent de récupérer peut-être un peu mieux, tu passes beaucoup de temps à l'eau ou alors tu fais un peu de physique et tout. Je pense pas que ça améliore les performances, peut-être baisser un petit peu le stress. Et voilà, donc si tu combines un peu le tout, le fait de récupérer un peu mieux, relâcher, être un peu moins anxieux, un peu moins stressé et t'aider un peu à dormir, c'est vrai que ça fait quand même un atout assez, assez important, quoi. C'est un peu comme prendre des compléments alimentaires ou des choses qui t'aident pour la récup, tu vois. T'en as plein, hein, des produits comme ça. C'est un peu, moi, je le vois un peu comme ça, en fait. Enfin, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un business qui se développe énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de marques, beaucoup de shops différents, beaucoup d'huile, beaucoup de choses, même peut-être un peu trop. Il y a aussi beaucoup de compètes qui ont été sponsorisées par carrément. Là, je te donne un exemple, mais sur le Big Wave World Tour en surf, donc c'est le tour du monde des grosses vagues. Ils ont sponsorisé une compète à Jaws, à Hawaï, l'hiver dernier, là, qui s'appelait CBDMD Jaws. Et eux, c'était carrément sponsor principal de l'event. Et après, t'as beaucoup de surfeurs qui sont sponsorisés par des marques comme moi. On est 24, tu vois, sur le circuit pro. De tête, je retiens 4 riders qui sont sponsorisés par des marques de CBD. Notamment pour les huiles, quoi. C'est rare qu'il y ait des riders qui fassent de la pub pour les fleurs de CBD, mais peut-être que ça va arriver un jour.
Bon, on va pas se mentir, tout comme dans le skate et le BMX, dans le milieu du surf et du bodyboard, la weed fait partie de la culture. Alors on a demandé à Maxime à quel point la fumette restait présente dans le circuit sportif.
Ouais, bah c'est sûr, hein, ça fume un peu partout. Quand j'étais jeune, sur les compètes un peu amateurs, etc. Bon, voilà, quand je suis rentré dans le circuit vraiment pro, bah, quand même là, c'était quand même moins présent, quoi. C'est vrai que voilà, c'est quand même des circuits où il y a du niveau, où c'est là où j'ai vu un peu le côté vraiment sportif, prépa, etc., qui est rentré un peu en compte. Après, évidemment, tu vas dans des pays comme au Brésil, au Maroc, des trucs comme ça, tu te doutes bien que sur la plage, ça fume de partout. Mais c'est pas forcément les riders qui vont fumer, tu vois. Il y en a pas beaucoup quand même qui se mettaient des joints avant de rentrer à l'eau avant leur série, quoi. Non, franchement, c'est un peu le stéréotype du surfeur. Mais en vrai, ouais, non, ça reste quand même assez carré là-dessus, quoi.
C'est carré chez vous, hein.
C'est aussi pour ça que quand je suis arrivé sur les compètes pro, il y avait moins de fumettes à droite à gauche, parce que bah, forcément, tu as des contrôles. En body, pour être franc, tu n'as pas des contrôles à toutes les compètes. Après, maintenant, il y a le surf qui va rentrer au JO. Là, tu peux être sûr qu'ils vont être testés et que voilà.
Mathieu, je pourrais en avoir un.
Quoi ?
Je voudrais savoir quel effet ça fait.
Salut Banana Kush, je vais vous raconter une histoire de weed et de sport. On était à la montagne avec des amis et on a décidé un jour en fin de journée de se faire une dernière descente qui allait commencer par un joint en haut de la montagne. Donc on arrive tranquille, on se pose, on se trouve à un bel endroit face aux Alpes où on pouvait admirer toute la montagne qui s'étendait devant nous. On allume un pétard, on le fait tourner, on écoute un peu de son, on rigole, tout se passe super bien. Puis d'un coup, on voit sur le pan de montagne en face de nous une avalanche qui se déclenche. Nous, morts de rire, défoncés, génial, on voit une avalanche, c'est hyper cool. Et puis elle s'arrête, on reprend notre affaire, on finit le pétard et là, on entend un énorme bruit, très similaire à celui qu'on venait d'entendre juste avant. Sauf qu'on ne voit pas d'avalanche. On l'entend, proche, mais on ne la voit pas. On commence à paniquer, on essaie de rechausser nos skis tant bien que mal, on se pète la gueule, on n'y arrive pas du tout, on est en panique, ça crie. Donc on redescend tant bien que mal cette montagne en ayant l'impression d'avoir la mort aux trousses. Et une fois arrivé en bas, on se retourne, on est tous hyper essoufflés. Et en fait, on se rend compte que l'avalanche n'était pas du tout derrière nous, hein, forcément. Une belle histoire de sport et de weed, en fait, où on a l'impression qu'il se passe un truc de ouf, mais en fait, pas tant que ça.
Bon, vous avez compris, la weed avant une descente à ski, ça peut valoir une grosse frayeur. Il est donc l'heure de conclure cet épisode 28 de Banana Cash, weed et sport à fond la fume.
Coach Payette à la tacotique pour ce beau match de fin de saison.
La MVP du match, c'est moi, Camille Diao, et ouais.
On remercie aussi notre préparatrice physique et technique, Lucie Lossel, qui a su remplacer Charlène Nouilloux au pied levé. Et big up à l'espoir de la team Emma Biabiani en stage dans notre centre de formation.
On se retrouve à la rentrée en septembre pour une nouvelle saison de Ligue 1 du podcast. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour l'après-match, la troisième mi-temps enfin, la banane de fin quoi.
Merci à tous nos supporters, on ne serait rien sans vous, on vous embrasse et on vous dit ciao.
Ciao. Bon bah ça y est, hein, Christophe, on y est. Elle est bouclée, cette deuxième saison de Banana Cush, finito.
Oui, enfin, te détends pas trop vite quand même, hein. Après les vacances, on revient en force.
Avec des podcasts, mais avec d'autres projets aussi. On leur dit ou on garde la surprise?
Oh, vas-y, je pense qu'on peut teaser un peu.
Ok, alors, indice. Ce sera jaune, ce sera un parallépipède, ça se prend en main, ça s'ouvre.
Il y a des pages aussi, je crois, et ça se range dans une bibliothèque.
Mais attends, Christophe, est-ce que tu seras en train de parler d'un livre?
Bah, on dirait bien, Camille, on dirait bien.
Et bah voilà, on a lâché le morceau. Banana Cush revient en septembre avec une saison 3 et très bientôt un bouquin à lire, à relire, à exposer dans votre salon et à offrir à toute votre famille, bien sûr.
Et surtout à votre grand-mère. Passez un bel été, n'abusez pas de la banane et on se retrouve dans 2 mois.
Attention! La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Informations et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Si t'as des ennuis, ça va mieux quand tu souris, chope la banane. Si t'as une trouille bleue, essaie un truc merveilleux, chope la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, chope la banane.
Si dehors il pleut, demain le ciel sera bleu, chope la banane. Si t'as du chagrin, juste un sourire fait du bien, chope la banane.